On vous en avait parlé sur Radio Pont. Nous y sommes allés. Nous avons pris quelques enregistrements. Les voici.
Salut, c'est Gwendoline. On est au Festival littéraire de Ténac le samedi 18 mars. Il est 13h45. À tout à l'heure.
Alors, on a le plaisir de retrouver M. Daniel Werner qui est venu déjà à la radio l'année dernière. Il s'est croisé au Salon des Auteurs. Comment vous allez, Monsieur Bernard ?
Eh bien, écoutez, très très bien. Le temps passe très vite et je suis très heureux d'être là, à Ténac, après Pons. Et donc, je suis charentais avant tout et je suis très heureux d'être parmi vous.
Et du coup, vous allez faire une conférence aujourd'hui, c'est ça ?
Ah oui, oui, je fais une conférence sur les couleurs et en même temps sur l'histoire des hommes, l'histoire des arbres, notamment des arbres, des bons et des mauvais arbres. Mais je ne dirais pas des mauvais arbres, je dirais des arbres incompris. Voilà. Donc il y a plein de... Voilà, c'est la signification sans les hommes qui ont, au fur et à mesure que les siècles passaient, ont donné des appréciations sur les arbres parce que il y a eu la... au Moyen-Âge, c'était la civilisation du bois, en fait. Donc c'était ça qui était important. L'arbre a été quelque chose, ça servait à la construction, aussi bien des ponts, des édifices, des maisons, que de faire des charrettes, et voilà, ou des brouettes. C'était ça qui était important, et des charrues, voilà. Oui. Et je vais parler de tout ça, de tout ce rapport au vivant entre les hommes ce bois, parce que le rapport au vivant, pour les gens, souvent, nous, on a perdu cette notion. Mais pendant des siècles, tout ce qui était rapport au vivant, c'était les animaux, c'était par essence, mais aussi les plantes et puis les arbres surtout. Parce que ces arbres qui vivent, qui poussent, qui naissent, qui grandissent et meurent comme les hommes, et souffrent aussi, pareil. Et donc c'est une très belle comparaison. Et en même temps, ça prouve qu'ils étaient proches de la Terre. Et c'est ce côté-là qui me plaît énormément de raconter. Et je peux venir à la radio vous raconter à nouveau ce genre de vraiment très belle histoire.
Mais il n'y aura pas de problème.
Qui est notre histoire à tous. Merci.
On a avec M. Bertrand. Bonjour.
Bonjour, Radio Ponce.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos livres ?
Alors, je suis installé là au Salon de Ténac et j'ai le plaisir de présenter certains de mes livres. J'ai derrière moi une vingtaine de livres, mais j'ai choisi ceux qui traitent plutôt du voyage. Donc, j'ai amené avec moi le dernier qui s'appelle Le coffre de Rimbaud, donc qui suit un peu Rimbaud à la trace à partir du moment où il quitte Paris pour aller en Europe d'abord, puis en Abyssinie. Sinon, j'ai. Oui, c'est un illustrateur qui a fait une image en fonction du contenu, c'est-à-dire qu'on plonge avec Rimbaud dans les déserts et dans ce qu'il appelle les grands déserts d'Abyssinie. Donc, sinon, j'ai des œuvres qui sont soit orientées vers le théâtre, puisque j'anime un atelier théâtre pour des lycéens au lycée de La Rochelle, en Vieux-le-Jeu. Donc j'ai une pièce qui s'appelle Africane et qui parle de la question des migrants. Et ce sont deux migrantes qui viennent d'Abyssinie. Donc vous voyez le lien avec Rimbaud, c'est juste celui que j'ai bien d'écrire après Le coffre de Rimbaud. Sinon j'en ai un qui est sur Gainsbourg, ça s'appelle Ma rue de Verneuil. Et puis, c'est à la fois un roman et une pièce de théâtre qui a été jouée par des lycéens et qui revisite l'univers un petit peu teinté de polar de Gainsbourg, puisque c'est l'univers de Bonnie and Clyde. Puis j'ai écrit des textes en référence à l'Écosse où j'ai vécu 2 ans. Et puis mon premier que j'ai emmené toujours, qui a beaucoup de succès, c'est celui sur les États-Unis.
La route, la poussière.
La route, la poussière, le sable, c'est mon premier. C'est le bilan d'un tour des États-Unis en autostop, un petit peu sur les traces de Kerouac.
C'est vous qui l'avez fait ?
C'est moi, oui. Je suis parti avec un copain en stop et l'idée c'était de découvrir les Américains sur la route. on the road. Donc c'est vrai que ça a été un défi dangereux et ça a généré beaucoup d'aventures. Donc j'en ai fait un roman teinté de réalisme.
Surtout les États-Unis, ça doit être...
Il s'est passé beaucoup de choses. Mais j'ai eu le temps de faire le tour, c'est-à-dire environ 16 000 km en snop en 6 semaines.
Ouais.
Donc prison, vol, attaque à main armée, enfin beaucoup de mésaventures qui ont nourri à la fois mon éducation, à l'époque j'avais 23 ans, et ma connaissance des États-Unis et le roman. Voilà à peu près une petite synthèse. C'est difficile de parler de... Là, j'en ai 6 sur la table. Et ben, sinon, j'ai un site qui récapitule tout ça. C'est ericbertrand.fr. Voilà.
Et là, si vous en avez une vingtaine en tout, vous avez un bon écrit depuis longtemps.
Ah ben, j'ai commencé avec La route, la poussière, le sable. J'avais 23 ans. Enfin, il est paru quand j'ai eu 30 ans, puisqu'il m'a fallu... Il m'a fallu le temps de prendre du recul par rapport à ce voyage. Mais c'est mon premier roman, c'est 30 ans qu'il est sorti. Et puis depuis, je crois que j'ai une production assez régulière. Environ un tous les ans. Là, j'en ai sorti 2 récemment.
Ah, merci.
Voilà. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
On est avec M. Jardin, qu'on avait déjà eu au téléphone.
Bonjour, monsieur. Oui, bonjour.
Ça va bien ?
Très bien, merci.
Comment ça se passe cette journée ?
Ah bah, ça commence à peine. Là, ce matin, j'étais à une rencontre avec Olivier Weber là, qui parlait de son livre sur les frontières. Voilà, du coup, j'étais en tant que spectateur. Et en tant que spectateur, franchement, et qu'auditeur, franchement, c'est intéressant. Voilà, lui c'est un vrai de vrai. Il a vraiment été partout. Bah, je parle de lui du coup, parce que franchement il a été partout et son expérience, même en tant qu'ambassadeur, parce que je ne savais pas qu'il avait été, son expérience par rapport à tous les pays qu'il a visités, à tout ce qu'il a vécu, ça donne une idée assez globale de ce qui se passe dans le monde. Et du coup, voilà, d'où ma question à un moment, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes encore optimiste malgré tout ? J'ai senti qu'il a dit oui, mais j'ai senti qu'il avait quand même un peu de mal à expliquer pourquoi oui.
L'autre jour, on avait parlé de l'esprit des montagnes.
Oui. Ça, c'est... Alors, ce que j'avais fait là, c'est des... Puisqu'on est dans un salon du voyage, j'avais fait on m'avait proposé d'adapter 5 romans de Jules Verne en un seul volume qui était destiné à être illustré. Et moi ça m'intéressait parce que j'étais un grand lecteur de Jules Verne quand j'étais jeune. Et du coup l'idée c'était de simplifier un petit peu la langue et de l'actualiser. Pas complètement réécrire tout, mais garder les choses, l'humour, parce qu'il y en a beaucoup, la plupart des descriptions et des aventures, mais en enlevant toute la partie un peu documentariste qui était un peu le passage obligé pour lire Jules Verne, parce qu'il y avait beaucoup de choses sur les minéraux, beaucoup de choses sur les poissons, dans Familier sous les mers, il y avait des pages et des pages de descriptions de poissons, qui pour les publics, les lectorats d'aujourd'hui, étaient peut-être un peu fastidieux. Donc du coup, l'idée c'était ça, c'était de simplifier ça, tout en retrouvant quand même le même allant et la même énergie d'écriture qu'il avait. Et donc... Ouais, vraiment pour une... Bah, parce que sinon, aujourd'hui, les gamins, ils le liraient plus, Jules Verne, alors que c'est quand même un auteur fondateur pour énormément de choses. La littérature en général, littérature de voyage en particulier, l'inventivité... tout, même des aspects de science-fiction, puisque de la Terre à la Lune, autour de la Lune et tout, ça a été vraiment les premiers textes de science-fiction, avec Conan Doyle aussi qui avait écrit des livres de science-fiction à l'époque aussi. Enfin, voilà. Donc ouais, ça m'a bien plu c'était un gros boulot, puisqu'il fallait quand même réduire en un seul volume 5 romans, dont 20 milieux sous les verres, qui est déjà énorme.
Il est plutôt gros. J'ai lu une fois Familier sous les mers. Il est intéressant, mais...
Ah bah, il faut... Ouais, c'est... Alors que là, puis en plus, on a bénéficié là, avec l'éditeur d'un illustrateur qui est vraiment très agréable. Et les images sont très, très douces, très, très agréables. Très, très originales, je trouve. Bon, là, c'est vrai, vous n'avez que le micro, vous n'avez pas la caméra, mais je le tourne pour vous rendre compte. Mais voilà, moi, il y avait le tour du monde en 80 jours, voyage au centre de la Terre, enfin, c'était joli, ouais, intéressant comme travail en tout cas. Ouais.
La Croix du Sud et Visage Pâle.
Alors ça, ce sont deux romans pour les ados que j'ai publiés chez Ozu aussi, puisque moi j'ai écrit pas mal de bouquins pour les jeunes, et du coup, un salon sur le voyage ici, c'est l'occasion de mettre en avant les livres sur le voyage, y compris pour les jeunes et les adolescents. Il se trouve que ces deux livres-là, chez Ozu, qui sont les plus récents, un se situe au Sahara, en plein cœur du Sahara, et l'autre dans les paysages de l'Ouest américain. Donc c'est, ce sont des romans voilà, pour jeunes, quoi, mais qui sont situés dans des décors liés au voyage. En fait.
D'accord. Voilà. C'est toujours intéressant, les voyages.
Non, il faut donner envie aux jeunes de marcher sur nos traces et de parcourir le monde. Hein.
Bah, j'espère que ça va leur donner envie.
Bah, j'espère aussi.
J'espère aussi. Merci, monsieur Tarek.
Ouais, de rien.
Au revoir. Au revoir. On est avec monsieur Joël Couteau. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous ?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Joël Couteau. Donc, je suis auteur, photographe et écrivain également. Mmh. Voilà. Et donc j'ai écrit quelques livres que vous voyez sur la table. Mmh. Marie du Marais, c'est une sac à la première sage-femme diplômée d'État qui s'est installée dans le sud Vendée. La Dame de Pago Pago, c'est une saga américaine qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui a 16-17 ans et qui arrive aux États-Unis et qui vient chercher son père qu'elle ne connaît pas. Et il va lui arriver tout un tas d'histoires à l'intérieur même de l'histoire des États-Unis.
Mmh. Voilà.
Et Nino, qui est l'histoire plus d'un problème familial, puisque Nino n'était pas le fils de son père, et il n'a jamais pu apprécier la vie telle qu'il aurait dû le faire. Voilà. Ça, Noirmoutier, c'est autre chose, c'est un recueil de nouvelles et de textes sur l'île de Noirmoutier et sur les îles de Vendée, qui sont un peu moins connues. On connaît beaucoup l'île de Noirmoutier et l'île Dieu, mais on ne connaît pas les autres îles de Vendée. Voilà.
J'aime bien aussi, du coup, nous parler des autres îles, justement, des îles qu'on ne connaît pas.
Voilà, les îles qu'on ne connaît pas, tout à fait.
Ça fait longtemps que vous écrivez ?
Moi, ça va faire maintenant 6 ans, voilà, depuis l'âge de ma retraite. Voilà.
Là, vous avez sorti 5 livres en 6 ans ?
Non, j'ai sorti 6 livres en 6 ans, un par an.
Ah oui ?
Voilà, ouais. J'écris effectivement un livre par an à peu près et tout.
Productif, alors.
Ah oui, j'écris, c'est-à-dire que j'ai pris l'habitude d'écrire plusieurs livres en même temps, ce qui fait que j'ai toujours pas mal d'avance.
Et c'est quoi qui vous inspire en général
Alors, toujours sur, je pars toujours à partir de faits réels.
D'accord.
Voilà, des personnages que je découvre suite à un article dans la presse ou comme la Marie du Marais, c'est ma mère qui m'en avait parlé. Mmh. La Dame de Pago Pago, c'est un article dans la presse qui a fait que je me suis intéressé à cette histoire et je me documente pendant un certain temps. Puis une fois que j'ai suffisamment de documents, je commence à écrire l'histoire et à la romancer.
D'accord. Voilà. Ben merci, monsieur.
Je vous en prie.
Au revoir.
Merci, au revoir.
On est avec madame là-bas. Bonjour, madame.
Bonjour.
Alors, vous pouvez nous parler un peu de vos livres ?
Oui, alors mon livre s'appelle « Comme une feuille de thé à Shikoku ». C'est le récit en fait d'un pèlerinage que j'ai effectué sur le plus long chemin sacré du Japon, sur l'île de Shikoku, qui est l'île en fait la plus petite des quatre îles principales de l'archipel japonais, donc qui est située au sud-ouest du Japon, et qui est considérée comme la plus traditionnelle et rurale du Japon, et qui est célèbre pour son pèlerinage, donc, dont le pèlerin parcourt les 1200 km en suivant le sens des aiguilles d'une montre. C'est un pèlerinage qui a la particularité d'être circulaire. C'est un chemin de pèlerinage bouddhiste sur les pas d'un moine qui s'appelle Kukai, qui est né et a vécu sur l'île de Shikoku au 8e siècle.
Et c'est quoi qui vous a donné envie d'aller au Japon, de faire ce pèlerinage ?
Alors en fait l'idée a germé et l'idée est née, la graine en tout cas a été semée sur le chemin de Compostelle en Espagne où j'ai rencontré un pèlerin japonais et c'est lui qui m'a parlé en fait en premier de l'île de Shikoku et de l'existence de ce chemin de pèlerinage dont j'ignorais totalement l'existence et j'avais eu moi beaucoup de mal à revenir à Paris, à retrouver mon quotidien en fait après le chemin de Compostelle, je me sentais un peu à l'étroit entre mes quatre murs et ce qu'il m'en avait dit à l'époque avait vraiment vraiment éveillé toute ma curiosité et un jour justement de lassitude dans ce quotidien sédentaire. Le nom de Shikoku m'est revenu à l'esprit et c'est là où j'ai regardé sur internet ce qu'il en était et où l'idée a germé d'un coup de me dire « Ah voilà, j'irai à Shikoku » et l'aventure est née comme ça.
Ça doit être magnifique le Japon.
Oui, bah, c'était la première fois que j'allais au Japon. Et donc c'est vraiment une totale découverte et puis surtout j'ai pas cherché à intellectualiser ma découverte par des lectures ou quoi que ce soit avant de partir, donc je suis vraiment partie dans l'accueil, l'ouverture, la pleine disponibilité à ce que cette découverte allait pouvoir aller m'offrir tout simplement. Et j'avoue avoir été mais enchantée par cette découverte parce que c'est en plus cette île et ce chemin amènent à la découverte d'un Japon traditionnel, rural et hautement spirituel puisqu'on est sur un chemin de pèlerinage et on est porté par cette spiritualité bouddhiste, par cette poésie aussi japonaise qui emprunte toute chose, qui a l'œuvre en tout et moi qui a été un véritable éblouissement.
Et avec les Japonais, ça se passe comment les relations
Alors ça se passe bien, ça se passe tout à fait bien même. En tout cas, moi je suis partie, je ne parlais pas du tout japonais, et à Shikoku ils ne parlent pas ni anglais, français encore moins. Et finalement, ça n'a pas du tout été un frein. Au contraire, à chaque fois, toutes les rencontres que j'ai pu faire ont été vraiment presque des rencontres de cœur à cœur. Je crois que c'est vraiment le cœur par le cœur dès lors qu'ils se rencontrent. Et je crois que vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, des rencontres très fortes, très belles, très lumineuses. Et puis en plus, à Shikoku, c'est vrai que le pèlerin jouit d'un statut particulier. Il est considéré comme l'intermédiaire entre le monde des hommes et Bouddha. Donc, et on crée à Shikoku la tradition des osetai, qui sont les offrandes faites aux pèlerins, justement considérées comme cet intermédiaire entre le monde des hommes et Bouddha. Et donc il y a une tradition d'hospitalité, d'accueil, de générosité envers le pèlerin qui est même un devoir d'assistance religieuse. Et du coup, ça, à vivre, c'est extrêmement fort et émouvant. J'ai été vraiment touchée par cet accueil empli de chaleur, de générosité, cet accueil souriant qui vraiment met à aller droit au cœur. On s'en portait et vraiment maillon aussi d'une chaîne de l'humanité. Enfin, c'était vraiment très touchant.
Et du coup, ça vous a fait quoi de revenir en France?
Ah, alors bonne question, parce qu'effectivement, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et à chaque fois, le retour dans mon quotidien était toujours difficile et j'aspirais à peine revenu à repartir sitôt arrivé. Et là, pour une fois, mon retour dans mon quotidien s'est effectué avec beaucoup de sérénité, comme une force tranquille, une force paisible. Porté, je pense, par cette infusion aussi dans ce monde japonais, dans ce monde extrêmement serein, harmonieux, paisible, dans cette spiritualité. Je pense qu'aussi que l'aspect circulaire du pèlerinage n'y est pas pour rien. Parce que c'est comme si en fait en bouclant la boucle on n'était pas arrivé mais au contraire tout commençait et le chemin s'ouvrait et du coup je suis revenue un petit peu portée par cet élan de cette rampe de lancement un petit peu. C'était vraiment ça, j'ai vécu comme ça en me disant mais non, le chemin continue et avant tout dans l'aventure de chaque jour et que le vrai chemin, le vrai défi il est là aussi, il est dans l'aventure de chaque jour pleinement à vivre et pas à rechercher dans un ailleurs lointain, illusoire ou utopique. Non, la vie, elle est avant tout ici et maintenant, là où sont mes pieds, là où sont mes pas, là où je vis. Et donc, fort de ça, il n'est plus question, en tout cas, d'ensommeillement, d'asphyxie ou de monotonie, comme je pouvais sentir avant mon départ dans mon quotidien sédentaire. Je dirais tout a pris une autre densité, plus d'ardeur, plus de présence. Ou en tout cas, moi, je suis davantage présente à ce qui est déjà là, ici et maintenant, à tout ce petit merveilleux qui est déjà là et que je ne percevais plus, pris dans une espèce de routine, en dormante ou endormie ou dans une vie dépêchée à vivre ou tout ça. Donc, retour... vraiment je l'ai vécu de manière très initiatique ce chemin.
Donc c'est un voyage à conseiller alors.
Et plus qu'à conseiller, je vous invite vivement à vous mettre en marche là-bas, si le cœur vous en dit bien sûr, mais merveilleuse aventure que je vous souhaite de vivre aussi.
Merci.
Merci à vous.
On a ici ce Louis et Ben. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À qui vous pourriez nous parler un petit
peu? De moi, c'est, enfin de mes livres plutôt.
Oui,
moi c'est pas très intéressant. Enfin bon, en même temps, c'est vrai que parler de mes livres, c'est aussi parler de moi, puisque
voilà.
Moi, je suis ancien scientifique, donc mes livres sont littéraires, bien sûr, mais évidemment teintés, fortement teintés de science, quoi. Donc c'est un petit peu de vulgarisation scientifique liée à une intrigue que j'essaye de rendre intéressante pour le lecteur, voilà.
Livre, vous n'avez que ces trois-là ou vous
n'avez
sorti
pour l'instant, j'ai sorti que ces trois-là. J'en ai un quatrième qui est en fait le troisième et qui devrait sortir, j'espère, cette année, peut-être l'année prochaine. Voilà. Donc qui est aussi scientifique, mais ça c'est de la science. C'est pas de la science-fiction, ça c'est de la science-fiction dans le passé, si on peut dire. Ça se passe au 4e siècle avant Jésus-Christ et ça parle d'astronomie et de druides. Voilà.
Donc vos livres, c'est en général, c'est la science.
Oui, bah, 3 sur 4. Quoi. Celui-là, c'est un cas un peu particulier. Ça, c'est un intermède, un peu, on va dire.
Lors du Kent.
Lors du Kent, oui, ça savait. Ça, c'est moitié historique, moitié autobiographique, puisque j'y raconte la prise du Kent par Surcouf en 1800. Ça, c'est un chapitre sur deux. Et un chapitre sur deux, je raconte ma propre recherche du trésor du Kent, donc jusqu'à l'île Maurice.
Et celui-là, Iridium Apocalypse.
Iridium Apocalypse, ça se passe sous les glaces de l'Antarctique. Alors je dis bien sous les glaces de l'Antarctique, pas de l'Arctique, parce que sous les glaces de l'Antarctique, il y a entre le continent et le glacier, on a des énormes poches d'eau liquide en fait, comme le lac Vostok par exemple. On en a parlé il y a quelques années puisque les Russes ont fait le premier forage pour aller voir ce qu'il y avait dans ces grandes étendues glacées, non pas glacées mais liquides, pardon. Et c'est des étendues qui peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres quand même. Donc dans ce roman, j'imagine que des scientifiques vont y voir en sous-marin. Voilà. Et donc ça aboutit à une découverte scientifique, encore une fois, qui donne une version très personnelle, à laquelle je ne crois pas forcément, mais enfin pas si absurde, de l'extinction des dinosaures, qui n'est ni la volcanique ni la météoritique. Le dernier, Chasse d'Antor, voilà, c'est carrément, là, on est dans... Ça, c'est pure science-fiction, c'est-à-dire on est dans l'anticipation, ce qui pourrait arriver à l'humanité dans les siècles à venir et qui n'est pas forcément très gai.
Je pense, oui. Ouais.
Voilà.
Bah, merci.
C'est moi qui vous remercie.
On est avec monsieur Maisonneuve. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, vous écrivez des livres sur les fruits, c'est ça ?
Voilà, sur les fruits.
Et ça raconte quoi ? Vous parlez de paroles de fruits, alors ça...
Je raconte de belles histoires de fruits. Alors, c'est plutôt le fruit culturel qui m'intéresse, donc la rencontre des fruits et des hommes. Alors pour le moment, j'ai écrit deux ouvrages. Le premier, donc « Paroles de fruits », effectivement, qui fait le portrait d'une centaine de fruits que nous avons rassemblés dans notre jardin que nous avons créé, donc à côté de Saint-Jean-d'Angély, le jardin de Pomone. Alors il y a aussi bien les fruits très anciens qu'on mangeait au Néolithique, les fruits sauvages que nous sommes en train d'oublier, comme les senelles, les cynorhodons, les faines du hêtre. Et puis, bien sûr, tous nos fruits familiers, les pommes, les poires, les cerises, mais également quelques fruits nouveaux qui ne sont encore pas très connus, qu'on arrive à faire fructifier, comme les asiminiers, les ragouminiers, les chéferdias.
Et vous avez dû rassembler beaucoup de fruits, alors
Dans le jardin, on a une bonne centaine d'espèces fruitières, tout à fait.
Et pour celles qui sont plus très connues, donc les plus anciennes, vous avez fait comment pour pouvoir...
Pour les procurer Alors, par des pépiniéristes qui font des choses un peu originales. Donc, j'avais tout un carnet d'adresses, comme j'ai été producteur de fruits. Voilà, donc j'ai pu rassembler la plupart de ces plantes assez facilement. Alors le deuxième ouvrage, voilà, c'est un thème de conférence que je donne, la rencontre des fruits et des hommes. Là, je fais le portrait d'une vingtaine de personnages qui m'ont semblé importants dans la relation que nous avons aujourd'hui avec les fruits. soit des gens qui les ont promus, soit des gens qui les ont plutôt dénigrés. Donc des belles rencontres, voilà. Et c'est un ouvrage tout à fait différent que du premier, puisque autant le premier est un ouvrage de photos, celui-ci est illustré par une aquarelliste de Saint-Jean-d'Angély, Armelle de la Place. Voilà.
Les fruits, c'est bon pour la santé. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et bon salon.
Alors, on est avec Junko Shibuya.
Bonjour, enchanté.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous?
Je suis auto-illustratrice de livres pour la jeunesse. Mmh. Et en fait, je suis d'origine japonaise.
Ah.
Et j'habite en France depuis 2005 avec mon mari japonais et notre fille japonaise. Elle a maintenant 16 ans. Et j'ai commencé à créer des albums d'abord pour ma fille.
C'est plutôt des livres pour enfants, vous
écrivez,
c'est ça ?
Comment ?
C'est plutôt des livres pour enfants, c'est
vous. Ah oui, c'est ça. Mais maintenant, elle a maintenant 16 ans, mais je continue. Oui.
Et ça fait longtemps que vous écrivez ?
En fait, avant j'étais illustratrice au Japon. Donc j'ai commencé ma carrière comme illustratrice. Et puis après la naissance de ma fille, j'ai commencé à faire des albums.
Allez, gâteau. On est avec Monsieur Quiz.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos livres?
Alors, j'ai écrit 3 livres. Le premier, un livre très court. Voilà, ni ce qu'ils espèrent, ni ce qu'ils croient, qui raconte l'histoire de 4 personnages un peu étranges dont on ne sait pas grand-chose et qui vont sur un chantier la nuit pour voler du gasoil. Voilà, et très rapidement, les choses se corsent un peu. Voilà, le second, écrit il y a 2 ans, s'appelle Les anges à part, et c'est un livre qui raconte les frasques de jeunes adolescents dans une campagne un peu idyllique. C'est entre, il y a parfois une forme de violence, celle des adolescents, et puis de l'autre côté, quelque chose d'un peu plus sensible ou de nostalgique. Et enfin le dernier, celui qui est sorti juste l'année dernière, L'ombre couvre leurs yeux, qui, alors là c'est une histoire, comment dire, de mauvais garçons. En fait, il y a 2 histoires qui se mélangent, il y a un entre-là, là, entre 2 histoires. Et en fait, la première, le narrateur, c'est un homme assez âgé, qui reçoit une femme qui est une journaliste, et la femme va lui demander de lui raconter une histoire qui s'est passée 20 ans auparavant. Et donc, en rentrant dans l'histoire, progressivement, la jeune femme va découvrir des choses assez étonnantes par rapport à cette histoire qui vont la concerner d'une certaine manière elle aussi. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien résumé.
Et donc, vous êtes américain ?
Mon père était américain, oui. Mon père était américain, moi je suis français. J'ai même pas la double nationalité parce que mes parents n'étaient pas mariés. Donc. Les parents sont mariés pour avoir les 2 passeports. Moi, j'ai dû choisir entre la nationalité française et la nationalité américaine. Je pouvais pas avoir les 2. Voilà.
Ah, merci.
Et pas de quoi. Au revoir.
On est avec Madame Zegloul.
Oui, Naïma.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Alors, vous, c'est le voyage dans la cuisine.
Oui, voilà, on voyage en avion, mais on peut en voyager en faisant des recettes et donc découvrir les pays, leur culture à travers des repas spécifiquement marocains, par exemple. Moi, c'est surtout la cuisine marocaine. Et donc, j'essaye de partager ça avec mes lecteurs Et j'essaye de leur inculquer le goût de la création aussi. Parce que j'aime bien, à partir de mes recettes, qu'ils essayent de créer leurs propres recettes.
Et vous êtes marocaine ?
Oui, je suis marocaine d'origine, voilà. Je suis... Non, ceux-là ne sont pas à moi. Ils m'ont demandé qu'ils soient présents sur ma table, mais c'est dans la même collection. C'est une collection qui s'appelle Voyage gourmand d'ici et d'ailleurs. Okay. Donc il y a des recettes françaises et puis des recettes étrangères. Et donc mes livres font partie des voyages gourmands d'ailleurs. Okay. Et eux aussi. C'est de la même collection.
Okay. Alors vous, c'est juste la cuisine marocaine.
C'est ceux-là. Moi, j'ai écrit ceux-là. Voilà.
Okay. C'est quoi qui vous a donné envie d'écrire?
Eh bien, en fait, au début, ce qui m'a donné envie d'écrire, quand j'étais étudiante et que mes amis me demandaient de faire la cuisine pour eux, bon, je trouvais que c'était très plaisant de partager des plats, partager ma culture avec eux. Et ils m'ont toujours dit, oui, mais si un jour tu pars, qu'est-ce qui va nous rester? Donc, ce serait bien que tu écrives. Et donc, un jour, j'ai un éditeur qui m'a contacté, justement, dans le sud de la France, puisque j'ai fait mes études à Marseille, et qui m'a commandé ce premier livre, donc « Ma cuisine marocaine ». Et le deuxième livre, c'est moi qui lui ai proposé. Et là, dans le monde des tagines, il y a des tagines du monde. C'est-à-dire, j'ai essayé d'adapter certaines recettes aux tagines. Par exemple, j'ai créé, en hommage à la Charente, le tagine de cagouille. Voilà. Et puis j'ai fait des tagines pour enfants, pour réconcilier les enfants avec les légumes par exemple. Parce que quand on prépare, on fait cuire des légumes avec des épices, des parfums. Alors quand on dit épices, c'est pas forcément qui pique, mais qui rehausse les saveurs. J'ai beaucoup travaillé sur les propriétés, disons, pharmaceutiques et pharmacologiques des épices. Voilà. Et donc ça peut être intéressant parce que les épices, elles ont des vertus médicinales que beaucoup de gens ignorent. En plus, donc, si ça a été toujours utilisé, c'est parce que non seulement ça rehaussait le goût et les saveurs, mais ça pouvait soigner. Voilà.
Merci.
Je vous en prie.
Et voilà, le festival littéraire de Tenac, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.